VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Aujourd'hui, édition du mercredi 8 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer les titres, élections législatives et régionales aujourd'hui en Afrique du Sud. Dans un instant, en direct de Johannesburg, notre correspondante sur place, Patricia Ur. En République démocratique du Congo, paralysie hier des activités commerciales et celle de la riposte contre la maladie à Butembo, dans l'Est, la maladie à Ebola. Visite surprise du secrétaire d'État américain en Irak alors que l'on parle de la menace d'une escalade iranienne. Nouvelle fusillade dans une école aux États-Unis, un mort et plusieurs blessés dans le Colorado, deux suspects arrêtés. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi en Afrique du Sud pour des élections législatives et régionales. Le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994, est donné favori malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Les dernières enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, synonyme de nouveau mandat à la présidence pour son chef Cyril Ramaphosa. Nous avons de nouveau en direct de Johannesburg, Patricia Huyon. Patricia, à vous.
Le vote se déroule depuis 7 heures ce matin. 26 millions d'électeurs sud-africains sont appelés aux urnes aujourd'hui, mais malgré des queues ici et là à Johannesburg, il ne semble pas y avoir d'affluence massive. C'est pourtant un scrutin important pour l'Afrique du Sud, d'abord parce qu'il se tient un quart de siècle après les premières élections multiraciales de 1994, et puis parce qu'il fait office de test pour l'ANC, le parti au pouvoir. L'image de l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid a été profondément endommagée. Les scandales de corruption, l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont érodé la confiance de la population et le vote pour l'ANC, élection après élection. Mené par le nouveau président Cyril Ramaphosa, le parti devrait néanmoins conserver sa majorité au Parlement. Il sera néanmoins intéressant de voir quelle majorité obtiendra le parti. À ce sujet, les sondages divergent. Certains le placent à peine plus de 50%, d'autres à plus de 60%. Or, de cette majorité dépendra en grande partie la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa. Patricia Lyon, Johannesburg, VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la mort d'un conducteur de taxi-moto après collision avec un véhicule d'une équipe de lutte contre Ebola a paralysé hier les activités commerciales et sanitaires à Butembo. Le point avec Morgane Guériec.
Selon le docteur Chrysostome Chaco de l'hôpital Matanda à Butembo, une jeep de l'équipe de riposte contre Ebola a percuté accidentellement un motard qui a été tué sur place. Et ses camarades ont jeté des pierres sur l'hôpital lorsqu'ils ramenaient le corps à la morgue. Toutes les activités dans la ville ont été paralysées à cause de cet accident. Le médecin estime que ces incidents vont impacter négativement les activités de riposte. Il craint que les équipes de lutte contre Ebola ne deviennent la cible d'attaque des conducteurs de taxi-moto. Cela fait 3 jours consécutifs que les activités de lutte contre Ebola se déroulent au ralenti à cause de l'insécurité. D'ailleurs, un médecin camerounais de l'OMS a été abattu le 20 avril alors qu'il participait à une réunion dans un hôpital. Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Lunga, a prévenu que chaque fois qu'il y a perturbation, il faudra s'attendre à une flambée du nombre de cas et du nombre de décès. Selon le dernier bilan, l'épidémie déclarée le 1er août dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri a fait au total 1045 morts.
En Libye, les troupes loyales au maréchal Khalifa Haftar ont annoncé hier avoir abattu un avion de chasse des forces du gouvernement d'Union nationale, le GNA, au sud de la capitale Tripoli. Elles disent aussi avoir arrêté son pilote présenté comme un mercenaire portugais. Les deux camps s'accusent mutuellement de recourir à des mercenaires étrangers et de bénéficier du soutien militaire de puissances étrangères. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, a lancé le 4 avril une offensive sur Tripoli, siège du GNA, reconnu par la communauté internationale. Au Soudan, le conseil militaire a affirmé hier que la charia devait rester la source de la législation, comme sous le régime du président déchu Omar el-Béchir. Et il a reproché au chef civil de la contestation d'avoir omis de mentionner la loi islamique dans leur proposition sur une période de transition. La semaine dernière, les chefs des manifestants avaient remis aux 10 membres du conseil militaire les propositions sur la forme des institutions qu'ils souhaitent pour la période de transition. En Guinée-Bissau, les fonctionnaires et les enseignants ont entamé hier une grève de 3 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Abdourahman Dia.
Le palais du gouvernement, qui abrite une douzaine de ministères, est resté ouvert, mais le bureau était vide mardi en l'absence des fonctionnaires. Les écoles sont restées fermées. Les grèves dans l'enseignement ont été quasiment ininterrompues depuis la rentrée de septembre, à l'exception d'une timide reprise en mars-avril. Avec cette nouvelle grève, il n'y aura plus moyen d'éviter une année blanche, a confié le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Papalan Dim. Le mot d'ordre de grève a été lancé par l'Union nationale des travailleurs et l'intersyndicale, qui regroupe une centaine de petites organisations. Comment imaginer que les agents de l'État travaillent 30 jours pour ne pas être payés à la fin du mois, se demande le président de l'UNTG, Julio Mendonça, en dénonçant le respect d'accords antérieurs par le gouvernement. Cette grève intervient alors que les nouveaux députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau de l'Assemblée nationale, condition préalable à la composition du gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a effectué une visite surprise en Irak au milieu de tensions croissantes avec l'Iran. Des services de renseignement ayant indiqué que Téhéran a déplacé par bateau des missiles balistiques de courte portée au large de ses côtes. Cette mesure annoncée par CNN fait partie de plusieurs indices selon lesquels l'Iran pourrait envisager ou préparer des attaques contre les forces américaines dans la région, a dit un officiel à l'agence AP. Monsieur Pompeo, qui a annulé une visite en Allemagne pour se rendre en Irak, a discuté avec le premier ministre Adel Abdul Mahdi de ses préoccupations sur une escalade des activités iraniennes. Hier, Washington a annoncé le déploiement de plusieurs bombardiers B-52 dans la région du Golfe, après avoir décidé d'accélérer l'arrivée en mer d'Oman du porte-parole et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln. En Syrie, plus de 150 000 personnes ont fui en une semaine des secteurs tenus par des djihadistes dans les provinces d'Idleb et de Hama. Les forces du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe ont intensifié leurs frappes. Irénée Herman Ungbo.
Hier, 13 civils ont été tués dans des raids aériens du régime ou de son allié russe contre des villages de la province d'Idleb ou celle voisine de Hama. Dominée par Trayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, la province d'Idleb est le dernier bastion djihadiste à échapper au pouvoir après plus de 8 ans de conflit. La moitié de ces quelques 3 millions d'habitants sont des déplacés. En une semaine, plus de 152 000 femmes, enfants et hommes ont été déplacés, selon David Swatson du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon OCHA, ces raids ont mis hors service 12 hôpitaux et 10 écoles depuis fin avril. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son extrême préoccupation et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une désescalade urgente. La Syrie est déchirée depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 370 000 morts et laissé des régions entières en ruine.
Ici aux États-Unis, un lycéen de 18 ans a trouvé la mort hier dans une fusillade qui a également fait plusieurs blessés dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver, au Colorado, a annoncé la police. 2 suspects, des jeunes scolarisés dans l'école STEM de la ville de Highlands Ranch, ont été arrêtés sur le campus, a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Douglas. Cette fusillade est survenue à une dizaine de kilomètres seulement du lycée Columbine, où le 20 avril 1999, 2 élèves âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés ont abattu en quelques minutes 12 camarades et un professeur avant de se suicider. Une nouvelle étape devrait être franchie aujourd'hui dans le bras de fer entre les démocrates de la Chambre des représentants et le président républicain Donald Trump, avec l'ouverture prévue d'une rare procédure contre son ministre de la Justice, William Barr. Les parlementaires démocrates, majoritaires à la Chambre basse, vont avoir une réunion en commission pour débattre avant de voter la défiance contre Bill Barr. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Minute Éco, Nanit Talani.
La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, assure avoir bon espoir que le Congo-Brazzaville ait trouvé un accord avec Pékin pour restructurer sa dette, ce qui devrait lui permettre d'accéder à un programme que le conseil d'administration du FMI attend d'approuver depuis plus d'une année. Pour accorder son aide, cette institution financière exige que le Congo restructure d'abord sa dette de 2 milliards de dollars avec la Chine. L'Afrique du Sud a signé hier un contrat pour l'exploration et la production du pétrole au Soudan du Sud dans une zone de 31 000 km² appelée Bloc 2. La phase d'exploration durera 6 ans. Le Soudan du Sud a des réserves estimées à 3,5 milliards de barils, dont 30% se trouvent dans des zones déjà explorées. Il s'agit des troisièmes plus larges réserves en Afrique subsaharienne. Pour terminer, Total a conclu un contrat de 8,8 milliards de dollars avec Occidental pour acquérir les actifs de la société pétrolière américaine Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud. La transaction devrait être finalisée en 2020. Anadarko veut annuler son accord de fusion avec Chevron qui lui offrait 33 milliards de dollars alors qu'Occidental lui propose 38 milliards de dollars. Si d'ici vendredi, Chevron ne fait pas de contre-offre ou si sa proposition révisée est rejetée, Anadarko devra payer à Chevron une indemnité de rupture de contrat de 1 milliard de dollars.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Deuxième demi-finale retour en Ligue des Champions ce soir.
Oui, l'Ajax n'a jamais été aussi proche de revivre une finale de Ligue des Champions. Le club d'Amsterdam, en ballotage favorable depuis son succès 1-0 en demi-finale aller, doit confirmer à domicile face à Tottenham. En cas de résultats positifs, l'Ajax peut s'offrir la possibilité d'un incroyable triplé coupe championnat Ligue des Champions, un exploit qui n'a plus été réalisé depuis 1972 et l'équipe d'un certain Johan Cruyff.
Hier, Liverpool a réussi son comeback contre Barcelone.
Oui, Liverpool a réussi une fantastique remontée en battant le FC Barcelone 4-0 à Anfield pour se qualifier pour la finale. Le Barça s'était pourtant imposé 3-0 chez lui au match aller. Mais dans un match qui va passer à la postérité, les Reds, pourtant privés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, ont renversé la situation grâce à 2 buts de Divock Origi à la 7e et à la 79e et 2 autres de Georginio Wijnaldum.
Ribéry reviendra au Bayern Munich après la fin de sa carrière.
Oui, l'histoire d'amour entre Franck Ribéry et Munich ne s'arrêtera peut-être pas définitivement. L'attaquant français qui va quitter le Bayern en fin de saison a annoncé qu'il reviendrait en Bavière après la fin de sa carrière. Le club n'a pour sa part encore rien communiqué officiellement sur l'avenir de l'ancien international. Auréolé de plus de 20 titres avec l'Orgue bavarois, dont la Ligue des Champions 2013, 8 titres de champion et 5 coupes d'Allemagne, en attendant peut-être un nouveau doublé coupe championnat dans quelques jours, le français a rappelé qu'il comptait encore profiter et espérait jouer encore 1 à 2 ans.
Thiago Silva pourrait manquer la Copa América.
Oui, le défenseur du Paris Saint-Germain a été opéré du genou droit, ce qui met en doute sa participation à la Copa América que la Seleção jouera à domicile du 14 juin au 7 juin prochain. Le joueur de 34 ans souffre d'une lésion du ménisque depuis sa blessure lors de la défaite 5-1 face à Lille le 14 avril dernier. Le sélectionneur brésilien Tite dévoilera la liste des joueurs convoqués pour la Copa América le 17 mai. Depuis l'élimination du Brésil en quart de finale du Mondial 2018, Thiago Silva a été appelé par intermittence et n'a été titularisé que 2 fois en 6 matchs amicaux. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats des demi-finales des playoffs la nuit dernière.
Toronto a battu Philadelphie 125 à 89 et mène la série 3 victoires à 2. Idem pour Denver qui a battu Portland 124 à 98 et mène donc la série 3 victoires à 2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, et nous vous le disions hier, les autorités sanitaires expriment des craintes d'une augmentation des cas de contamination et de décès dus à la maladie à virus Ebola après 2 jours de ralentissement des activités de riposte dans l'est du pays. Eddy Isango a joint dans le Nord Kivu le coordonnateur général de la riposte contre Ebola, le docteur Aaron Haruna.
Le nombre augmente du fait qu'il y a toujours des événements qui ont des effets négatifs vis-à-vis de l'organisation de la riposte. Comme vous le savez, au mois de février, au moment où on a appelé le centre de traitement Ebola, ça a créé la panique au niveau des équipes de riposte. Ils ont fait pratiquement 7 à 8 jours sans organiser des ripostes au niveau communautaire. C'est-à-dire, lorsque les équipes ne passent pas, n'organisent pas des activités au niveau communautaire pendant une semaine, cela favorise c'est la diffusion de la contamination. La dernière fois, c'était la mort du docteur Richard. On parle de docteur Richard, c'est un épidémiologiste camerounais qui était abattu vers 13h-14h. Et cela a créé le psychose au niveau des équipes et veulent à ce qu'ils soient sécurisés. Et tout ce temps-là, qu'on cherche le moyen pour les sécuriser, entre-temps, la maladie est en train de se propager au niveau de la communauté parce qu'ils avaient peur d'aller organiser les activités de riposte au niveau communautaire.
Est-ce que l'insécurité est la seule raison du ralentissement des activités de riposte contre Ebola ou il y en a d'autres?
Bon, je pense que la cause principale, c'est l'insécurité. Parce qu'avant l'assassinat du docteur Richard, les équipes étaient au niveau des communautés, les activités, presque à 100%, on a commencé à vacciner le maximum de contacts. Et je pense qu'avec cette allure-là, on pouvait rapidement fléchir la tendance de l'épidémie. Mais comme on commence à tuer les gens, on commence à tirer, à saccager les véhicules, tout cela. Donc c'est le problème de sécurité qui est à la base des ralentissements des activités. Donc les équipes de riposte n'ont pas la facilité de descendre, n'ont pas la garantie, n'ont pas la sécurité pour mener les activités au niveau de la communauté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vacciner, ils ne peuvent pas chercher de nouveaux cas au niveau de la communauté, ils ne peuvent pas superviser l'enterrement lorsqu'il y a un cas qui est décédé au niveau communautaire. Et ils ne peuvent pas désinfecter les ménages, ils ne peuvent pas désinfecter les formations sanitaires d'où vient le nouveau cas positif.
Mais qu'est-ce qui explique ces ressentiments de la population ou de certaines personnes à l'égard de ce qui va dans la riposte? Au moindre problème, il y a des attaques.
Nous sommes dans un coin spécifique où la guerre est là depuis plus de 15, il y a des groupes armés, il y a les maïmaï, tout cela. Et à certains moments, vous dites que les gens de Beni, de Butembo, ils ont le sentiment là de refuser tout ce qui vient du niveau central. Ils se considèrent toujours en opposition. Il y a les politiciens qui activent et qui essaient de circuler les messages qui ne sont pas corrects, les messages parfois de la haine vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'équipe de riposte. Et c'est ce qui complique la riposte au niveau communautaire. Jusqu'à même, il y a infiltration des groupes armés, des rebelles, des équipes parmi la population. Ils commencent à tirer sur les équipes de riposte. C'est ça la cause principale de tout ce qui se passe aujourd'hui à Beni, à Butembo et à Kato.
C'était le docteur Aaron Haruna, coordonnateur général de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Nigeria, mobilisation autour de la question de la migration illégale. L'archevêque d'Abuja, le cardinal John Onyekan, veut mener une action de plaidoyer auprès afin de contribuer à réduire le phénomène. En collaboration avec NAPTIP, l'agence de lutte contre le trafic d'êtres humains, il organise cette semaine des journées de réflexion pour tenter de trouver une solution au départ des jeunes Nigérians. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Il ne fait plus de doute que la migration illégale est devenue une crise internationale. Pour le cas particulier du Nigeria, elle a pris de l'ampleur ces dernières années. L'archevêque d'Abuja s'est dit préoccupé par les effets de la migration sur le Nigeria, le cardinal John Onyekan.
Il y a toute une conglomération de raisons et de causes. On pourrait pointer le premier sur les causes économiques. Les gens, ils disent qu'ils vont pour chercher des environnements meilleurs pour leur vie, particulièrement les jeunes, avec l'idée, malheureusement, presque souvent pas vrai, qu'une fois qu'on arrive en Europe, on devient riche.
Plusieurs centaines de Nigériens ont été expulsés de Libye ces derniers mois et de nombreux autres sont morts dans des circonstances douteuses. Une situation qui inquiète l'opinion nationale. Onuya Benedict a 30 ans et originaire de l'état du Delta dans le sud pétrolifère. Le Delta est l'un des états les plus affectés par le départ des jeunes.
Nous allons saisir cette opportunité. Ils vont nous renseigner sur les conséquences des phases de la migration illégale et comment ça nous affecte négativement. Et nous allons trouver des moyens pour mettre fin à cette pratique et ne plus jamais essayer de nous lancer dans la migration illégale. Nous allons aussi informer nos amis et leur demander d'éviter la migration illégale.
Problème, personne ne semble accepter la responsabilité des raisons qui lancent des centaines de jeunes Nigériens dans une aventure qui finissent souvent dans le désespoir. On dit que certains parents en zone rurale vendent leur terrain pour permettre à leurs enfants d'aller en Europe. Okoro Doudou est mère de famille.
C'est vraiment triste pour une maman de voir des enfants en train d'être trafiqués et de vivre toutes ces difficultés pour pouvoir bénéficier d'une vie meilleure. Mais la faute n'est pas à eux seuls. Que fait notre gouvernement?
Des véritables réseaux constitués organisent et encadrent le départ des migrants illégaux au Nigeria et dans de nombreux cas le trafic d'êtres humains. Depuis un peu plus d'un an, le Nigeria, avec l'assistance de l'OIM, l'Office international des migrations, affrète des avions pour faciliter le retour des Nigériens émigrés et en situation de détresse. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie. Cette semaine dans Washington Forum, les élections générales en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel doit élire ses députés au Parlement et ses représentants dans les 9 assemblées provinciales mercredi. Le président Cyril Ramaphosa a de grandes chances d'être reconduit car la victoire de l'ANC, parti qui a mis fin à l'apartheid, est quasi assurée. Mais les défis auxquels devront faire face les vainqueurs sont de taille. L'économie sud-africaine se porte mal, le chômage dépasse les 27% et les inégalités sont parmi les plus criantes au monde. Au plan politique, l'ANC, déjà fragilisée par des scandales de corruption, est divisée. On en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
En Algérie, les arrestations de caciques du régime d'Abdelaziz Bouteflika continuent après les généraux Mohamed Medienne et Atman Tartag, ex-patron des services de renseignement. C'est au tour de Saïd Bouteflika, frère du président déchu, en avril dernier. Quelle est la stratégie du général Gaïd Salah au pouvoir? Morgane Guiriec a joint le journaliste de HuffPost en Algérie, Madi Aliou.
Cela semble être sa stratégie pour calmer le mouvement populaire qui dure depuis le 22 février dernier. En fait, dans ses précédents discours, il n'a pas cessé de répéter que ces arrestations répondent aux revendications des manifestants, comme quoi, en fait, les Algériens qui manifestaient appelaient à travers leurs slogans, à travers leurs pancartes, à ce que ces hommes d'affaires soient jugés. Sa stratégie pour sauver sa tête auprès des Algériens et ensuite on ne sait pas s'il veut se maintenir en poste. En fait, la majorité m'accuse de vouloir forcer les Algériens à prendre part aux prochaines élections du 4 juillet. Pourtant, celles-ci sont jetées en masse par le corps électoral qui est dehors. Et au fait, Salah est accusé de vouloir régénérer le système à travers ces élections.
Il dit que ces arrestations correspondent aux revendications des manifestants, pourtant ils sont toujours dans la rue.
Exactement. Gaïd Salah semble avoir oublié que les principales revendications des Algériens ne sont pas les arrestations des hommes d'affaires et des personnes responsables accusées de vol de corruption. Les principales revendications, c'est de pouvoir mener une transition démocratique, libre et surtout, c'est le départ du gouvernement actuel et du chef de l'État par intérim. Une transition qui sera gérée par des hommes qui n'ont pas servi le système de Bouteflika durant ces 20 dernières années.
Et c'est pour ça que les manifestants ne sont pas pour aller aux élections?
Les Algériens refusent des élections qui seront supervisées par le gouvernement actuel qui ont supervisé les précédentes élections présidentielles, législatives, locales et qui ont été entachées de fraude.
Les manifestations vont-elles persister pendant le ramadan?
J'ai bien l'impression que oui, parce qu'aujourd'hui on est mardi et c'est la journée des étudiants. Ils étaient en force ce matin. Ils ont commencé à manifester dans la capitale Alger peu après 10 heures et ils étaient tout aussi nombreux que d'habitude et tout aussi déterminés. D'ailleurs, c'était ça leur slogan, on ne va pas s'arrêter durant le ramadan, on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que ce système parte, jusqu'à ce que ce régime tombe.
Madi Aliou, journaliste au HuffPost, joint à Alger.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, une nouvelle étape devrait être franchie aujourd'hui dans le bras de fer entre les démocrates de la Chambre des représentants et le président républicain Donald Trump, avec l'ouverture prévue d'une rare procédure contre son ministre de la Justice, William Barr. Les parlementaires démocrates majoritaires à la Chambre basse vont avoir une réunion en commission pour débattre avant de voter la défiance contre Bill Barr. Il l'accuse d'avoir entravé les prérogatives d'enquête du Congrès en refusant de leur livrer, dans les délais impartis, la version complète du rapport d'enquête du procureur Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Ils accusent aussi M. Barr de chercher à protéger le président Trump. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint en Virginie l'universitaire James Caesar.
Je crois que la chose la plus importante, c'est le but d'embarrasser le président. Donc c'est un jeu politique plutôt que d'autres choses.
Mais les démocrates contrôlent certes la Chambre, mais est-ce qu'ils ont les moyens de contraindre William Barr, le ministre de la Justice, de leur donner accès au rapport complet de Robert Mueller?
Je crois que non, il peut voter comme il veut, il peut voter en mépris pour Barr. Mais on l'a fait déjà pour Holder, l'ancien ministre pour Obama, et ça n'a aucun effet sur son boulot. Donc c'est pas important, c'est une espèce de moyen de plaindre, mais pas d'effectuer des buts.
Mais en même temps, les démocrates contrôlent depuis novembre la Chambre des représentants. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont du mal à asseoir un peu leur autorité? Est-ce que c'est le cas?
Non, c'est un moyen, je crois, pour embarrasser le président devant l'opinion publique, pour maintenir un débat pour le public. Peut-être qu'il va essayer de faire plus, mais en fait, il ne peut pas vraiment effectuer plus que ça.
Mais ils ont tout de même le droit de savoir ce qu'il y a dans le rapport sans forcément que ce rapport ne soit expurgé de certains éléments, selon eux.
À mon avis, ils peuvent penser qu'ils ont le droit, mais il y a une loi qui gouverne ces rapports. Cette loi a été passée par un ancien congrès. Donc, selon Barr, il suit la loi. Cette loi est là pour protéger des choses privées et des témoins qui sont privés. Donc, selon Barr, le conflit n'est pas entre le Congrès et Barr. Le conflit est entre le Congrès et la loi qui existe. Donc, ça va devant les cours pour être décidé.
On semble assister aussi à une division au sein du camp démocrate.
Il y a un conflit entre les démocrates. C'est très important. Il y a plusieurs démocrates qui ne veulent pas continuer ce conflit. 31 ou 32 démocrates ont été élus l'année dernière, qui viennent des circonscriptions qui sont plutôt républicaines. Ils ne veulent pas continuer ce conflit. Et Nancy Pelosi, qui est la chef du Parti démocrate, c'est pas sûr c'est ce qu'elle veut faire.
L'universitaire James Caesar, joint en Virginie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.